clivage, c'est bon. Tout le monde tweet, filme tout. En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Ouais,
9h40, l'instant M est de retour dans vos oreilles.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Pour une presse indépendante,
formation numérique,
le nez sur l'écran.
Et de deux, Laurence Haïm était la seule journaliste française à avoir interviewé Barack Obama une fois. Elle est la seule désormais à l'avoir eu à deux reprises en tête à tête. 20 minutes exclusives diffusées hier sur iTélé, dont vous êtes la correspondante à Washington. Bienvenue à Paris, Laurence Haïm.
Bonjour.
Avec vous ce matin, nous dressons le bilan médiatique de cette fin de mandat pour Barack Obama et balayons la bataille télévisuelle qui se joue en ce moment même sur les écrans américains où la guerre des primaires fait rage. Hello everybody and little Frenchie, hashtag Instant M.
L'Instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Bonsoir à tous.
Et bonsoir à toutes.
Bienvenue dans le JT de la grosse émission. Beaucoup d'actu.
Très peu d'infos. Politique. Nicolas Sarkozy a déclaré quand on consulte des images djihadistes, on est djihadiste.
Alors moi personnellement, je regarde des clips de Beyoncé. Donc je suis Beyoncé.
Ouais. Moi je regarde des vidéos avec des chats, donc je suis un chat dans la neige qui se lèche la queue.
Mais il a raison en fait.
Hein ? Ah non, il n'y a pas raison du tout. C'est impossible de se lécher la queue.
Ouais, ça c'est peut-être rapport à la taille.
Oh.
Voilà, c'est une info du site Pure Média. Cyril Hanouna, animateur et producteur de Touche pas à mon poste et d'une kyrielle de programmes sur D8 et D17, devrait récupérer la production de La Grosse Émission, le show culte qui fait son retour sur Comédie, autre chaîne du groupe Canal. Hanouna a signé un contrat record de 250 millions d'euros de production sur 5 ans avec Vivendi, maison mère de Canal. La société d'Hanouna appartient au groupe Banijay, dont Vivendi prend aujourd'hui des parts. Bref, c'est de plus en plus net. En matière de divertissement, Cyril Hanouna est l'homme clé de Vincent Bolloré. Direction le Brésil maintenant, les trolls et autres auteurs de commentaires racistes particulièrement actifs sur les sites d'info et les réseaux sociaux voient leurs mots et carrément leurs identités affichées en 4x3 en pleine rue et à proximité de leur domicile, s'il vous plaît. Pas difficile hein, d'ailleurs à réaliser comme opération quand on pense au nombre de données géographiques disponibles sur nos profils virtuels. Cette campagne, elle est baptisée « Racisme virtuel, conséquences réelles ». Elle a été conçue par une association de femmes noires réagissant aux insultes essuyées en grand, grand nombre sur Facebook par la journaliste noire Maria Rulia Continuo. Voilà, et mon invité du jour, c'est Laurence Haïm. Donc, vous avez posé d'ailleurs hier à Barack Obama une longue question sur le déferlement xénophobe qu'on peut ressentir, entendre, lire et palper de toutes parts à l'égard des réfugiés.
Oui.
En France et aux États-Unis d'ailleurs, puisque ça fait écho hein, à toute une problématique de la campagne américaine.
Oui, parce que les réfugiés syriens se sont complètement mobilisés, enfin d'une certaine manière engouffrés dans la campagne américaine, mm-hmm. et que c'est pour les républicains un thème extrêmement important. Et donc, on entend des discours proches vraiment de thèses qu'on entendait dans les années 30, sans doute en Allemagne, qui sont faits par des candidats républicains qui veulent devenir président des États-Unis. Et donc, je trouvais que c'était intéressant pour Obama de réagir un peu là-dessus. Bon, je l'ai fait pour essayer d'avoir quelque chose, mais j'ai le sentiment qu'il bottait en touche. Il était très adroit dans sa réponse.
Alors, très adroit dans sa réponse, la bataille, quand on interviewe Barack Obama ou autre président américain, c'est d'avoir des réponses et savoir, et c'est d'avoir aussi du temps pour poser les questions.
Deux questions parce que je sais que votre porte-parole me dit qu'il faut que j'arrête.
Je vais vous donner un peu plus de temps, laissez-moi terminer.
Merci, on apprécie vraiment Monsieur le Président.
Voilà, on apprécie vraiment Monsieur le Président. Donc là, il y a une petite dissension entre le Président qui est au micro et son premier conseiller qui est juste derrière vous et qui vous fait de grands signes parce que vous devez arrêter.
Oui, parce que c'est très cadré les interviews pour un président aux États-Unis. Donc on m'avait dit, on m'avait répété, c'est 5 minutes. Et c'est 5 minutes du temps du président des États-Unis. Et donc quand Josh Earnest, qui est le porte-parole de Barack Obama, avec lequel j'ai négocié cette interview, arrive, Josh rentre dans la pièce et me dit « Laura », parce qu'il m'appelle Laura aux États-Unis, « vous avez bien compris que c'est 5 minutes, hein, pas plus, on compte sur vous ». Et moi, j'ai toujours des engagements moraux. Quand je dis les choses avec les gens avec qui je négocie, je tiens mes engagements. Mm-hmm. Donc, je dis, OK, pas de problème. Et donc, je m'étais disciplinée pour faire 6 minutes en me disant, bon, la 6e minute sera réservée à une question un peu superficielle, Paris, patati, patata.
Plus légère.
Plus légère, et comme ça, on terminera. Donc, voilà. Et de toute manière, il va me faire le signe parce qu'ils ont adopté, c'est notamment l'administration Obama qui a fait ça, ils ont adopté ce que les gens d'Hollywood font dans ce qui s'appelle les press junkets. C'est-à-dire, ils vous mettent des gens derrière la caméra et puis chronomètre. Et
les press junkets, c'est quand vous avez une énorme star américaine qui est en promo partout dans le monde, et bien les journalistes défilent les uns après les autres dans la chambre d'hôtel.
Voilà. Et moi, j'ai toujours, à un moment donné, j'en ai fait deux et j'ai dit, je ne fais pas ce genre de journalisme. Mm-hmm. Donc j'ai boycotté les press junkets. Évidemment, je ne peux pas boycotter Barack Obama, mais les gens d'Obama ont adopté cette méthode de communication.
Mais déjà, la première fois que vous aviez interviewé
Obama, la première fois,
c'était 10 minutes.
Non, c'était 6 minutes 30 mm-hmm. avec Robert Gibbs, qui à l'époque était le porte-parole. Et là, Obama ne m'avait pas donné 15 secondes de plus. Donc, à un moment donné, il y a Gibbs qui vous fait des grands signes. Il y a les Secret Service qui commencent à avancer vers la caméra. Donc là, vous dites, bon, OK, je ne vais pas être ridicule. Et de toute manière, j'ai encore un mandat à faire. Donc, je respecte. Et j'avais respecté dans la première interview.
Parce que les Secret Services, ils coupent la caméra, s'il
faut ?
Non,
ils coupent pas, mais c'est pas une position où vous avez envie.
Non, c'est pas
très confortable.
Là, vous êtes monté à 18 minutes, Laurent Saïm. C'est un énorme format.
Alors, ce qui était très drôle, c'est le coup de la montre. C'est-à-dire que, en fait, quand l'interview démarre, Josh est derrière la caméra et regarde sa montre. Et il y a une assistante de Josh qui regarde aussi la montre. Et au bout, c'est juste après la deuxième question où là, Josh commence à me faire des grands signes. Et à ce moment-là, bon, je pose ma 3e question et je dis à Obama ce que vous venez de diffuser. Mmh. Et là, d'un seul coup, Obama répond ça. Et là, j'ai vu tout de suite, parce que je regardais, Josh rentre la montre dans sa poche. Et là, je me suis dit, bon, ça, c'est incroyable.
Et là, ça y est, liberté.
Liberté, oui. Il fallait pas trop pousser. À un moment donné, c'est intéressant, parce que je me souviens quand j'ai senti que ça se déclenchait. Et c'est là où j'ai de nouveau eu les grands signes. C'est après la question sur Hollande et Sarkozy.
Alors, en 2010, vous avez eu des mots assez durs. Hein. C'était une sorte de premier bilan, Laurent Saïm, de journaliste accrédité à la Maison-Blanche. Des mots assez durs sur cette communication extrêmement décevante de la part de Barack Obama et de son équipe, des promesses de transparence non tenues, des infos extrêmement verrouillées. Barack Obama, on le voit, on ne l'entend pas, dites-vous à cette époque-là. Quel bilan aujourd'hui vous tirez 5 ans après ?
C'est pire ? Oui, bien sûr, c'est pire. Et puis, il faut le dire.
Son entourage est le même, puisque là, on voit que son porte-parole a changé.
Non, alors, c'est le même, mais ils ont évolué à l'intérieur du système. En fait, ce qui est très intéressant là, dans la fin du deuxième mandat, c'est de voir que les gens qui ont fait la campagne de l'Iowa, donc les purs et durs, qui étaient des gens très jeunes à l'époque, hein, qui portaient des cafés et qui s'étaient engagés pour Barack Obama, se retrouvent en charge de la communication et à des postes très importants. Et pour cette fin de deuxième mandat, il s'est entouré des jeunes de l'avant Maison Blanche. Donc c'est un groupe qui est extrêmement soudé. C'est comme dans une chaîne de télé ici. Vous prenez des gens extrêmement soudés. Vous savez que c'est des fidèles qui vont pas parler. Et Obama est vraiment entouré de gens comme ça. Non, moi, je pense qu'il faut toujours être dur et critiquer quand on est journaliste. Et ça, c'est la leçon que je tire de mes collègues de la Maison Blanche. On travaille extrêmement dur. Cette interview, c'est des années de travail. C'est pas comme ça qu'on peut décrocher. Il y a toujours les Français. Il y a des tonnes de Français qui m'appellent en disant « Est-ce que tu crois que je peux avoir Barack Obama sur mon plateau ?» etc. Ça se passe pas comme ça. C'est un autre code, c'est un autre système. Il faut travailler de manière acharnée pour se faire respecter. Et ils vous respectent parce que vous êtes dur. Mm-hmm. Et moi, c'est ça que je défends. Et j'ai le droit de critiquer la communication de Barack Obama, qui est une communication où nous sommes les ennemis. Il y a un mur entre Barack Obama, les conseillers de Barack Obama et nous. On est dans une communication virtuelle. Ça s'est accéléré avec les réseaux sociaux. Eux, ils font Twitter, les réseaux sociaux, pour transmettre directement la parole du président
au peuple. En court-circuitant les journalistes.
Oui, parce que les journalistes américains veulent poser des questions dures en disant « Il a voulu être président, il mérite ça ».
Alors, vous critiquez la com de Barack Obama, vous critiquez aussi sa politique, vous lui avez posé hier...
Mais j'aime bien
hier.
La com aussi de Barack Obama, parce que grâce à cette com-là, et en essayant de les convaincre que je vais faire mon métier de journaliste, en posant des questions pour un média français après les attaques, et que c'est important pour le président américain de communiquer un message aux jeunes, parce que c'est comme ça que ça s'est joué, ça a marché. On est dur, mais ils sont justes. Mais on est, voilà, c'est un drôle de jeu.
Est-ce qu'il
n'y
a pas une sorte de grand paradoxe en cette fin de mandat où vous l'avez posé hier, la question sur Guantanamo, cette promesse non tenue, et en même temps le fait qu'il a les pieds et poings liés parce qu'il y a une majorité républicaine au Congrès et qu'il a une marge de manœuvre politique très très faible. Donc est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre cette difficulté de pouvoir agir politiquement et en même temps son omniprésence médiatique en cette fin de mandat? C'est rare pour un président sortant, il est partout,
non,
il est
parce
là
que
tout
c'est
le
un
temps.
C'est un président communicant, c'est paradoxal. Il n'y a pas d'accès pour nous, les journalistes, qui voulons enquêter et poser des questions dures au pouvoir sur des sujets sensibles. Mm-hmm. Mais en même temps, il veut communiquer. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la communication Obama. C'est-à-dire cette dualité entre, OK, moi, je fais des choses, mais en même temps, je veux contrôler les choses. J'utilise à fond les réseaux sociaux comme aucun président ne l'a fait, parce que c'est vraiment une communication basée sur Twitter, Facebook, Google. Ils sont vraiment là-dessus. D'ailleurs, tous les gens qui sortent de la Maison-Blanche trouvent en général du travail sur la côte ouest, chez Google, Facebook, ouais. Ça c'est le grand truc à la mode, ouais. On les retrouve tous sur la côte ouest. Et ce qui est intéressant aussi, et moi c'est en tant que journaliste ce que j'ai envie de décrypter, c'est cette contradiction sur la fin du deuxième mandat,
c'est ça.
Dans laquelle ils sont. C'est-à-dire, est-ce que ça a marché les années Obama? Et qu'est-ce qui va se passer? Guantanamo, c'était très intéressant, et je vous donne une petite information. En fait, Guantanamo, le plan est prêt pour fermer Guantanamo. Il veut fermer Guantanamo, et il veut même faire un décret présidentiel pour fermer Guantanamo. Ça devait être annoncé 2 jours avant les attaques de Paris, avant son départ pour l'Asie. Et puis, ils ont pris un peu de retard pour des questions juridiques assez complexes liées au statut des prisonniers de Guantanamo. Et ils ont dit qu'on va reporter un tout petit peu. Et il y a eu les attaques de Paris. Et donc maintenant, c'est très compliqué d'annoncer aux Américains, on va fermer Guantanamo. Mais tout est pensé, tout est calculé. Nous, à la Maison-Blanche, les journalistes, on a inventé une expression qui est « This is Friday, oh my God », c'est-à-dire « c'est vendredi, oh mon Dieu ». Parce que chaque fois qu'ils veulent annoncer un truc important, un truc fondamental, ils le font le vendredi à 5h de l'après-midi. Parce qu'on est tous crevés, que c'est avant le week-end, et qu'ils savent que ça va être moins dur que lundi matin.
C'est le Black Friday,
on dit. C'est un truc épouvantable. Ouais. Et c'est aussi le Black Friday, parce que dans les entreprises américaines, quand on veut vous virer,
c'est le samedi après-midi.
Le vendredi.
Technique de management de
voilà,
base
exactement.
Aujourd'hui.
Et ben, les gens de la communication d'Obama, c'est toujours... Alors là, par exemple, il y avait Thanksgiving, qui est une fête très importante aux États-Unis, où les Américains se reposent. Et le mercredi avant Thanksgiving, on était tous, « Ah mon Dieu, que va-t-il se passer ? Ils vont nous annoncer quelque chose. » Ils font ça assez souvent.
Alors, je vous propose, Laurence Haïm, de plonger avec vous de l'autre côté, du côté des Républicains, où la bataille fait rage en ce moment parce que la primaire approche. On écoute du Donald Trump dans le texte.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter. Avec Sonia De Villers.
A lot of people are saying, Donald, you're the most amazing guy. You're brilliant, you're handsome, you're rich, you have everything going. The world is waiting for you to be president. So why are you hosting Saturday Night Live? Why? And the answer is, I have really nothing better to do.
Eh ben voilà, il est comme ça, Donald Trump. Il vient au Saturday Night Live, qui est une des plus vieilles émissions de télévision américaine, qui se fait en direct de New York toutes les semaines, qui est un mélange d'orchestre, de public, de comédiens maison. Enfin, c'est vraiment le divertissement pur et dur. Il fait un monologue d'ouverture comme un comique à l'américaine. Alors, c'est une campagne, on le sait, non régulée en termes de temps de parole. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurence Haïm? Ça veut dire que c'est la prime au spectacle et que c'est la prime à l'audience tous azimuts.
Tout le temps.
Tout le temps.
Si CNN est en train de devenir la chaîne Donald Trump. Il n'y a pas de CSA, il n'y a pas de temps de contrôle, donc ils font ce qu'ils veulent. Chaque fois que vous mettez Trump à l'antenne, les audiences sont démultipliées.
Alors, on a même repéré avec l'équipe de l'instant même des trucs absolument insensés, c'est-à-dire qu'on est capable de le prendre une demi-heure au téléphone.
Oui, alors ça, c'est la
nouveauté. Au téléphone.
Donc ça, c'est la nouveauté médiatique des chaînes d'info continue aux États-Unis. C'est-à-dire, l'homme politique fait énormément d'audience, il fait tellement d'audience qu'on n'a pas le temps de déplacer la caméra, le point de duplex, etc. Et on va le faire réagir partout. Alors, ils n'ont pas encore installé Skype chez lui. À mon avis, ça va venir.
Il y a un journaliste de Fox, Chris Wallace, qui a refusé, qui s'est refusé.
Ouais, mais CNN le fait. Je pense que et les networks commencent à suivre parce que évidemment, ça fait de l'audience, donc ça marche. Donc maintenant, on a souvent Trump au téléphone et Trump le fait. Et alors, c'est complètement fou parce que vous avez n'importe quel sujet d'actualité et à 7h du matin, vous avez nous avons joint Donald Trump au téléphone. Mm-hmm. Alors, il est dans sa salle de bain, il commente.
Mais ça veut dire qu'il est toujours aussi efficace même quand il est absent.
Oui, oui, mais il y a un vrai phénomène d'audience sur Trump. Moi, j'ai toujours dit, et je l'ai dit en premier, dans l'émission de Laurence Ferrari. Mm-hmm. Je m'en souviens, c'était en mai dernier. Non, c'était pas sur E-Télé, c'était sur D8.
Oui.
Et je l'ai dit aussi à Ara Aprekian à l'époque, qui était aux manettes. J'ai dit, il y a un type qu'il faut surveiller, c'est Donald Trump. Mm-hmm. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Donald Trump. Voilà. Et tout le monde m'a dit, mais n'importe quoi, patati, et puis, Laurence est folle, comme d'habitude, on va voir. Et ben, voilà.
Ça, comme d'habitude.
Ouais, ouais. Non, non, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que je suis folle. Donc, Donald Trump, je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller. On ne sait pas ce que ça va donner. Bush est à 5%. Donald Trump, il est en ce moment entre 20 à 25%. Et les premières primaires ont lieu dans moins de 45 jours en Iowa.
Alors, les premières primaires dans 45 jours, mais ce qu'on appelle les débats, voire les pré-débats, hein, parce qu'on parle de show et de pre-show, eux ont démarré depuis cet été. On vous en fait écouter. C'est des spectacles absolument hallucinants.
Coast, and the moment of truth has arrived. Welcome to the first debate night of the 2016 presidential campaign, live from Quicken Loans Arena in Cleveland, Ohio. I'm Megyn Kelly.
C'est réalisé comme un immense événement sportif, stade surchauffé, des shows, des lumières qui tournent.
Ouais, oui, je vais vous donner un petit scoop. Ouais. Si vous cherchez du travail aux États-Unis, mm-hmm. que vous êtes journaliste, mm-hmm. il faut pitcher les chaînes après une année présidentielle. Parce qu'il y a beaucoup de pubs, mm-hmm. ça rapporte énormément d'argent.
C'est le moment où on recrute.
Voilà, c'est le moment où on recrute parce que les chaînes ont tellement d'argent qu'elles ne savent pas quoi en faire. Donc dans le monde des freelances, tout le monde dit « Ah, si t'as une idée, c'est juste après la campagne présidentielle.
» La voix qu'on entend là, c'est celle de Megyn Kelly.
Ouais, qui est une femme extraordinaire, qui est vraiment le phénomène.
Il faut la décrire, Laurence Haïm, parce que c'est une bombe atomique.
Oui, mais je l'adore. Je trouve que pour les femmes, elle invente quelque chose qui n'a jamais été fait.
Blonde platine, le nez retroussé.
Elle est parfaite.
Elle est parfaite.
Elle est parfaite plastiquement, mais en même temps, elle n'est pas toute jeune, elle a mid-age, comme on dit, et elle est très offensive, elle travaille, elle est très bonne. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment un phénomène. À chaque saison, vous avez une femme comme ça qui apparaît dans les médias américains. Et Megyn Kelly, bon, qui travaille sur Fox News,
elle est la star, hein, de la chaîne.
Oui, elle fait un talk show quotidien à 21h tous les soirs sur Fox News. Elle est extrêmement agressive, elle n'a pas peur, elle pose des questions. Et elle a ce look de femme sexy, blonde, un peu fantasme.
Ce qui est très intéressant, ouais. Laurence Haïm, c'est que nous, on a l'image assez caricaturale de Fox News, mmh. donc une chaîne pro-républicaine, extrêmement réac, extrêmement offensive, comme vous le dites. Et en même temps, s'il y en a une qui cogne sur Trump, c'est Megyn Kelly.
Et elle a fait un truc extraordinaire dans le débat, qui était le premier débat républicain, où elle a regardé Trump, elle lui a posé des questions extrêmement dures. Trump l'a critiqué en lui disant des choses épouvantables que je ne peux pas répéter à l'antenne, en faisant allusion à pourquoi elle avait des sauts d'humeur. C'était d'une vulgarité épouvantable.
Il a dit clairement, il a fait allusion au fait qu'elle avait ses règles, voilà. C'était d'une misogynie crasse.
C'était terrible. Mm-hmm. Et en même temps, elle ne s'est pas laissée démonter. C'était incroyable ce moment de télé de Megyn Kelly de Fox News face à Trump, où elle le mettait en face de ses responsabilités en lui disant « Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Comment vous pouvez diriger un pays? Qu'avez-vous ?»
Et en même temps, vous avez assisté, Laurence Haïm, à des débats que vous avez trouvé totalement indigne, justement, dans cette course
aux
primaires.
Oui, mais moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans les débats télévisés, c'est que d'abord, c'est pas du tout le même format que nous. C'est des shows, vous l'avez très bien décrit. Ils sont tous derrière des pupitres, ils répètent les choses, etc. Et il y a maintenant la politique spectacle. Et la politique spectacle pour faire de l'audience, où on demande n'importe quoi, genre quelle est votre couleur préférée, décrivez-nous votre plus grande faiblesse, vous qui voulez être président des États-Unis, en moins de 30 secondes. Et CNBC, qui est une chaîne qui a fait un débat républicain très critiqué, a véritablement échoué. Et on était dans l'absurdité de comment faire du spectacle par rapport aux politiques, alors que le monde va tellement mal. Et ce qui est très intéressant en ce moment aux États-Unis, c'est de voir qu'il y a des gens qui résistent par rapport à ça, qui disent « on peut plus faire ça, ça ne marche plus, les gens ne vont plus dans cette politique de divertissement par rapport au sérieux du monde. Et c'est ça qui est en train d'évoluer. Et quand les chaînes vont dans « Ah tiens, on va faire de l'audience, on va faire du divertissement avec des politiques », on s'aperçoit qu'il y a un rejet total. Et on s'aperçoit que des gens qui font ce que moi, dans ma tête, j'appelle la télé bien classique des années 50, et ben finalement, ça marche.
Merci beaucoup, Laurence Haïm. On continue de vous suivre sur les antennes d'iTélé. Merci d'avoir fait un petit crochet par Radio France à l'occasion de ce passage à Paris.